Et je pense sincèrement, et je crois qu'on a quand même sauvé la boutique, et que quand on voit que c'est devenu Naval Group, bon, c'est quand même pas mal. Mais si on l'avait pas fait, je pense qu'il se serait aplati, quoi. Que ça a tombé, parce que ça aurait devenu une armée de fonctionnaires avec des concurrents qui sont beaucoup moins chers, beaucoup plus réactifs. C'est pas possible. Voilà, bon. J'en prends une partie de la responsabilité, je n'étais pas seul, hein. Je veux dire, beaucoup de gens ont partagé. Ceux qui ne sont pas d'accord, tant pis.
La grande maison. Histoire d'Arsouille. À retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en raccourci.
La semaine dernière, je rencontrais chez lui, au-dessus des bassins de Naval Group, où le Monge se refaisait une beauté, Jacques Grossi, ancien directeur adjoint de DCN de 1987 à 1991. Il me parlait à cette occasion de son poste de directeur et ses réformes, de son entretien seul avec Mitterrand et du journal d'entreprise qu'il créait.
Jacques Grossi, 80 ans, né en 41. J'ai été à la sortie de Polytechnique, j'ai choisi le corps du génie maritime, qui à l'époque précédait le corps qui est devenu le corps de l'armement, donc j'étais ingénieur de génie maritime. Et donc j'ai intégré à la sortie de l'école la direction des constructions navales. Ensuite j'ai eu diverses affectations et j'ai terminé ma carrière dans le ministère de la Défense comme directeur central des constructions navales entre 91 et 95. Puis je suis venu à Brest en retraite travailler. Bon, c'est une autre histoire, mais voilà, mon avis, la navale c'est ça. Ça s'écroule donc entre 66 et 95, avec évidemment des affectations multiples, dont une à Madagascar, où à l'époque il y avait encore un arsenal qu'on a fermé ensemble pour le livrer en bon état à l'état malgache, et puis divers postes dans le cabinet, à la DGA, ou bien au ministère de la Défense, ou encore à la coopération. Bon voilà, en gros.
En 1966, Jacques Grossi sort de Polytechnique et se voit affecté à l'arsenal de Brest, où il commence à officier en tant que jeune ingénieur du génie maritime.
J'avais en charge un atelier qui s'appelait les BF, c'est-à-dire les bâtiments en fer, et j'étais adjoint puis tout seul responsable pour la construction de trois sous-marins, qui étaient des petits sous-marins, des Daphné. Parce qu'à l'époque, l'idée avait germé qu'il fallait faire une deuxième chaîne de sous-marins en construction et la lancer à Brest. Donc il y avait Cherbourg qui faisait les premiers SNLE. L'idée était de monter quelque chose à Brest qui puisse faire une chaîne de sous-marins. Mais bon, ça ne s'était pas fait. Mais là, on avait construit trois sous-marins Daphné, les deux derniers Daphné pour la France et le premier Daphné pour les Pakistanais. Voilà. Et j'ai fini en étant responsable de la construction du troisième sous-marin. De ce troisième sous-marin français, c'était la Sirène, qui était donc mon bébé.
D'accord.
Et je suis parti à Madagascar là-dessus.
À ce moment-là, l'arsenal est encore un organisme où n'agit que l'État, à la fois cliente et fournisseur de ses demandes via la DCAN.
Non, l'arsenal, c'est... Dans l'arsenal, vous avez la marine, les travaux maritimes, enfin, tout ce qui dépend un peu de la marine, travaux maritimes... Forcément, bon. Et puis la DCAN, qui est Direction des Constructions et Armes Navales, qui est un établissement dans l'établissement de la DCN ou la DCN. Soulé, c'est pas facile à comprendre parce que la DCN est le fournisseur de la marine et vit chez elle, vit chez lui.
Ouais.
Et en même temps, à l'époque, on gérait le budget de la marine. Enfin, vous voyez, des relations très complexes entre la marine et la DCN, mais qui durait depuis Napoléon, enfin même avant, depuis la... Ça aurait été comme ça. Et donc à Brest, il y avait un arsenal, ce qu'on appelle l'arsenal, c'était à l'époque 20 000 personnes, mais dans ces 20 000 personnes, il y en avait 7 000 qui dépendaient de la DCAN, Direction des Constructions en Laval. Il y a un directeur adjoint, et puis à l'époque, on était 27 ingénieurs dans l'armement maritime. Et donc nous, on est chargé, la DCN était chargée de construire et d'entretenir les bateaux de la marine, et éventuellement pour l'exportation, ou dans les cas graves, faire même des navires, on l'a vu à la sortie de la guerre, et des navires civils qui ont été faits parce qu'il fallait reconstruire la flotte. Hein. Bon. Mais donc, la DCN est un état dans l'état. Donc il y avait un directeur qui était ingénieur général, un adjoint directeur qui était aussi général, et puis des chefs de ce qu'on appelle de section, parce que qui reflétait l'activité de la maison. C'est-à-dire, il y avait la construction, il y avait un chef de la construction d'œuvre, il y avait un chef de la réparation, et puis un chef de ce qu'on appelle armes équipements, c'est-à-dire ce qui, vous voyez, tout ce qui est maintenant électronique et mécanique, électronique et armes qui sont usées sur les bateaux. Donc, on avait ça, puis il y avait le service, la comptabilité, les marchés, etc. Bon, et nous, on était les ingénieurs débutants, on était cadres, mais on n'était pas chef. Hein.
Ouais.
Je suis revenu, par contre, en 87. De 87 à 90, j'ai été directeur adjoint de l'Arsenal, de la DCN. C'était la deuxième fois que je suis revenu. Là, j'étais un peu plus chef, quoi. Mais au début, j'étais, bon, j'avais des responsabilités, mais j'étais pas chef. J'étais responsable de la construction d'un sous-marin. Bon, ben.
Lorsqu'il revient à Brest en 1987 et devient directeur adjoint de la DCN, direction des constructions navales, Jacques Rossier est alors en charge de la production de l'Arsenal au moment du lancement de la construction du porte-avions Charles de Gaulle.
Donc chargé de la production, ça veut dire que tout ce qui concernait la construction et la réparation des navires, c'était de ma responsabilité à cette époque-là. Enfin, bon, voilà.
D'accord. Et vous gériez également du coup les hommes qui étaient sous votre...
Ah ben, bien sûr, oui.
Ouais.
Parce que c'est pas moi qui faisais le travail. Hein.
Bien sûr.
Quand même, il y avait quand même 7000 personnes, donc... oui, oui, c'est essentiellement les hommes. D'ailleurs, l'important, c'est les hommes. Hein. C'est pas... C'est l'organisation, c'est à mettre en place pour construire un porte-avions, ce qu'il faut. C'est à l'époque qu'on avait lancé le porte-avions ici. Ben, il faut créer des équipes en choisissant des gens compétents, les structurant, et puis... Bon, c'est le boulot, ça. Hein.
Et jusqu'à combien d'hommes vous avez eu, du coup, sous votre...
Oh, ben écoutez, quand j'étais le patron de la DCN, j'en avais 30 000.
Ah oui.
Puisque la direction des constructions navales, en 91, faisait 30 000 personnes. Réparties à Brest, Cherbourg, Lorient, Ruel, Paris, il en manque un, Saint-Tropez. Voilà. Donc, ça faisait 30 000 personnes. C'était quand même une boîte qui avait 20 milliards de chiffre d'affaires, pas d'euros, hein, 3 milliards d'euros. C'est sûr que ce qui m'a le plus marqué, c'est d'être devenu le patron, enfin le directeur de... Vous savez, quand vous rentrez dans un corps et que vous retrouvez à la fin être le patron, c'est quand même émotionnant, quoi. Je veux dire, c'est... Parce que, bon, on a des ancêtres bien connus, glorieux, hein, qui ont leur tableau dans l'hôtel de la Marine, on les voit. Et puis, c'est quand même... Bon, donc c'est ça. Sinon, des émotions, enfin, à Brest, l'histoire des... Quand j'étais la première fois, ce qui a été... dur, frappant, c'était que l'époque où les sous-marins coulaient. Ben, pour une raison, il y a eu... Si vous relisez vos classiques, vous savez que l'Eurydice et la Binaire ont coulé à Toulon dans les années 67-68. Et nous, à Brest, on faisait les essais, les sous-marins. Donc, faire essai, ça veut dire que le sous-marin, il est en devenir, quoi. Il n'est pas recété avec des Pakistanais, qui étaient commandants. Donc, qui n'étaient forcément pas les mêmes méthodes que nous, que nos marins bien-aimés. Donc, il y a eu quand même une petite crise, là, qu'il a fallu surmonter. À un moment donné, ben, tout le monde était en grève et j'ai dû faire les essais avec ceux qui étaient fonctionnaires et, ou militaires. Les ouvriers ne venaient pas, donc on a fait des essais avec les Pakistanais, où je me suis mis à les vannes, etc. Ça a marché. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'est quand même assez marquant, parce que vous avez d'un côté des sous-marins qui coulent, hein, et puis vous en faites un nouveau avec des gens inexpérimentés. Bon, ça c'est une émotion. Les autres après sont venus ailleurs, à Madagascar ou ailleurs. Mais à Brest, ça a été ça, et puis... Dans ma deuxième affectation, je crois que ce qui a le plus marqué, c'est la... avoir réussi à imposer la... la qualité. À l'époque, il fallait... Maintenant, c'est devenu courant, mais à l'époque, il fallait certifier... Enfin, tout le monde ne le faisait pas, mais j'ai voulu certifier qualité, le travail d'un dessin. Donc ça demandait toute une organisation, toute une mise en place, une discussion avec les syndicats. Enfin, c'est une opération qui a bien marché. Voilà, j'étais content.
Justement, les syndicats. Je ne rencontrais que des ouvriers syndiqués. Je voulais savoir ce que ça faisait d'être directeur adjoint à l'Arsenal de Brest, où l'encartement allait quasiment de pair avec son enrôlement.
Disons que quand j'étais directeur adjoint, on a eu de la chance, il n'y a pas eu trop d'excitation. Bon, il y avait toujours pareil, il y avait la CGT qui en rajoute toujours un peu, là. Mais bon, c'est son boulot. Non, pendant les 3 ans de directeur adjoint, on a même bien travaillé ensemble, puisque je vous dis, pour la qualité, il fallait que tout le monde soit autour de la table, on s'y est mis, on a réussi. Il n'y a pas eu de gros majeur. Il y en a eu après, par la suite. Hein. Je me souviens que quand j'étais directeur à Paris, alors, j'ai eu à gérer le directeur de Cherbourg enfermé par ses troupes, hein, qui était otage des troupes. D'ailleurs, on a géré ça avec le cabinet du ministre. Enfin, c'était assez passionnant. On l'a libéré, il n'y a pas eu de mort, hein, mais les syndicats cherbourgeois étaient, à l'époque, étaient plus brutaux que les qu'ailleurs. Il y avait un moment où on disait, on fait de l'avancement. Bon. Pour ça, il y a des commissions qui se réunissent, et puis Paris fait ses calculs, de Paris tombe pour chaque poste, vous avez droit à tant d'avancement, tel grade, enfin, je parle des indices. Hein. Donc, quand il y avait l'annonce des avancements, eh ben, les syndicats, la plupart, se mobilisaient pour dire on n'a pas assez de postes, puis bon. Donc il y avait toujours des grèves. Et il y en a qu'une qui a été, celle que je vous dis, c'était à Cherbourg, bon, je ne sais pas ce qu'elle a repris cette année-là, mais ils ont fermé directeur.
Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous.
Mais je vous dis, on n'a pas eu de... À cette époque-là, donc, où j'étais, on n'a pas eu d'affrontement. Et quand j'étais jeune ingénieur, bon, on avait que mai 68, mais mai 68, ça n'a rien à voir avec Paris, quoi. Au contraire, tout le monde a été augmenté, personne ne savait d'où ça venait. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Mais même pour elle, le point qui était dur quand même, des sous-marins qui coulent, on le construisait. Bon, on comprend que les gens... ça s'est bien passé. Il y a eu simplement un moment de dire non, on ne veut pas partir tant que c'est pas sûr, on ne part pas, on ne va pas risquer la vie. Bon, c'est vrai. Mais il n'y a pas eu de bagarre. Je ne pouvais pas me syndiquer.
J'ai quand même un statut de militaire.
Pour tirer l'esprit du cachot, soufflons, nous mène notre forge, battons le fer quand il est chaud.
Et puis le porte-avions est sorti. Bon, ben, le porte-avions, je l'ai vu naître, j'ai contribué à le faire naître, mais je l'ai vu finir sous mes fenêtres. En 2002, bon, c'est une longue histoire. Hein. Alors, on a posé la première tôle en 87, parce qu'à l'époque, le gouvernement avait changé. On était passé de la gauche à la droite, et le nouveau gouvernement, on sentait qu'il ne voulait pas trop... le nouveau ministre ne voulait pas entendre parler du porte-avions. Enfin, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Hein. Et donc, j'ai passé mon temps à inaugurer la première tôle pour faire savoir que ça existait. Donc, on a coupé la première tôle au bâtiment en fer, on l'a déposée dans le bassin. Chaque fois, on faisait la pub, et puis bon. Après, le retour de l'histoire, et le porte-avions a été certifié. Et un grand moment a été l'inauguration par le président de la République. En 1994, donc j'ai été chargé de recevoir le président de la République pour lui faire visiter le porte-avions et le baptiser. Ça, c'était à Brest. Mais j'étais à Paris à ce moment-là, mais j'étais venu à Brest.
En tant que directeur adjoint de DCN, Jacques Rossi travaillera également à 2 autres grands projets, les modes de recrutement et la semi-privatisation de l'Arsenal.
On voit bien que la fac s'est démocratisée, qu'on a créé des IUT. Donc à l'époque, je me suis dit... les formations internes par le FT, c'est bien, mais pour les techniciens, maintenant qu'il y a des VET, il faut quand même modifier le statut du corps de façon à ce qu'on puisse s'approvisionner directement à la fac. Sinon, c'est complètement idiot de faire des facs. Et donc, il y a eu une réforme que j'ai menée à l'époque avec les syndicats, et là, ça a très bien marché, on a tout marché ensemble, et on a transformé la filière des techniciens supérieurs, hein, dans laquelle il était prévu que le recrutement pouvait se faire au niveau Bac plus 2, tout en conservant la progression interne, mais qui a diminué au fur et à mesure, parce que ça coûtait cher et le résultat était le même. Et donc maintenant, tous les techniciens sont des BTS, ou presque, quoi.
Est-ce que vous avez connu également, j'ai plus exactement les dates en tête, mais est-ce que vous avez connu la semi-privatisation ensuite de l'Arsenal ?
Non seulement je l'ai connu, mais c'est moi qui l'ai préparé, et largement. On s'est aperçu que le régime d'une société comme la nôtre, c'est-à-dire qui était l'État, qui était à la fois le donneur d'ordre en tant qu'État et l'industriel pour le faire. C'est-à-dire que quand j'étais avec Jacques, à un moment donné, on discutait du devis du SNLE. Mais le donneur d'ordre, c'était moi, mais l'industriel, c'était moi. Qui est responsable ? Bon, et puis en plus, quand vous voyez qu'on a fait de la coopération avec les Anglais se disaient, bon, même s'ils trichent, hein, mais il y a l'industriel et il y a l'État. Vous êtes les deux à la fois, ça ne marche pas. Donc, peu à peu, tout le monde a ressenti le besoin de sortir cette entité DCN, qui déjà était quand même sortie de la marine. Hein. Ce n'était pas la même chose. Il y avait des rapports étroits, puisqu'on vivait chez eux, d'en faire une séparation. Et j'ai commencé par séparer, suite à un rapport qu'on avait demandé, comment on pouvait séparer les activités industrielles des activités étatiques. Donc voir dans chaque poste, dans chaque établissement, comment on pouvait faire la différence. Et puis savoir quoi relever l'industriel ou pas. Par exemple, l'entretien de la flotte, certains voulaient l'entretien étatique. Dans la flotte, bon, ben moi je voulais que ce soit une activité industrielle, ne serait-ce que parce que pour Brest, c'est l'activité majeure industrielle. Bon. Et donc on a décidé que l'entretien de la flotte était industriel, d'où la nécessité de créer un organisme qui maintenant existe à Brest, qui est chargé de surveiller et de donner des ordres au nom de la marine, même si c'est que des ingénieurs qui font ça, pour surveiller les réparations. Donc vous voyez, l'activité industrielle d'un côté, mais un donneur d'ordre étatique de l'autre. Et pour la construction navale, pareil. Ça a été fait en 2000. Hein, en 2000, où là, on a effectivement, selon le schéma qui avait été dessiné de séparation et identifié. La chose qu'on a faite, par contre, que j'ai eu à faire, c'est changer les textes. Parce que les textes fondateurs de la DCN, c'est je ne sais pas, 20 pages qui passent par le Conseil d'État, par les finances, par tout. Et un truc impossible. Et bien, grâce à M. Jocques, on l'a fait en 2 mois. Mes troupes ont fait le travail, mais pour le faire passer, le ministre s'en est mêlé, et ça a été fait en 2 mois. Donc, on avait effectivement, au moins légalement, juridiquement, on avait donc une DCN dont on savait qu'il y avait une partie qui était étatique et l'autre industrielle. Il restait à séparer les deux, et ça s'est vraiment fait qu'en 2001-2002, avec... 2002. Il a fallu quand même, vous voyez, 92, 91, 2000, il a fallu 10 ans. Et d'ailleurs, les députés brestois ont été pour beaucoup pour faire admettre ce changement de statut. Parce que les gens, bon, évidemment, ça fait mal au cœur de dire on perd. Bon, mais si on n'avait pas fait ça, moi j'avais vu les arsenaux italiens quand c'était le mort que c'était. C'était vraiment un truc abandonné qui marchait en étatique, enfin en budgétaire. Bon, il y a des choses, il y en a pas, et qui n'avait aucune activité autre que la réparation ou l'entretien.
Pour terminer, je demandais à Jacques Rossi quel était son meilleur souvenir de l'Arsenal. Il m'en donnait deux.
Venez voir la photo.
Ah, je vous suis.
C'est plus de ma femme, mais c'est pas grave.
Tu dis
réparateur,
c'est pas bon.
Quoi ?
Voilà.
Permettez que j'entre.
Bonjour madame.
Mon meilleur souvenir, c'est celui-là. Disons que pour l'ego, c'est celui-là. Mitterrand, Balladur, Léotard, et puis moi.
D'accord, ah oui. D'accord.
Ah, et derrière, on a mis un drapeau bleu, blanc, rouge, et puis il y avait des militaires qui descendaient les.
Un peu fané quand même.
Le bateau, il bougeait pas. On l'a pas lancé parce qu'il est trop gros. Donc, il était recouvert d'un voile protecteur.
Oui.
Et devant le président, les marins, je sais pas quoi, ou les parachutistes ont défait le voile, ils ont descendu ça. Et le bateau est apparu dans toute sa splendeur.
D'accord.
Et puis, je suis resté une demi-heure en tête à tête avec Mitterrand. Ça, c'est le propre parce que. On m'a laissé tout seul avec lui pour lui faire visiter le bateau. Honnêtement, je crois qu'il s'en foutait. Et moi, je racontais des histoires de chaudière nucléaire. C'était pas le pied. Ça, c'est mon regret, c'est pas lui avoir parlé d'autre chose. Mais enfin, on est resté une demi-heure et était très, 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 très sympa.
Le second souvenir marquant de Jacques Grossi concernait le journal d'entreprise qu'il créait au sein de DCN.
Je m'étais aperçu qu'au fond, on avait une boîte qui s'appelle la DCN. Qui n'avait aucun état d'âme. Il n'y avait aucune âme, plutôt. Les ouvriers ne discutaient pas avec les cadres. D'où j'ai eu l'idée, que j'ai soumise au directeur, que je remercie parce qu'il a soutenu, lui dire, bon, il faut faire quelque chose pour créer un lien, faire prendre conscience aux gens qui sont, qu'il y en a d'autres, qui sont dans la même boîte, qui travaillent ensemble, qui sachent ce qui se passe ailleurs, enfin, faire passer à la fois de la communication, de la discussion. Je lui dis, il faudrait créer un journal. Et ce directeur, à l'époque, m'a dit, vous avez quartier libre, sous réserve, évidemment, de ne pas faire un certain... Enfin, de ne pas tomber dans des erreurs, mais il n'y aura pas de censure. Et il a tenu jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la préfecture maritime voyait d'un mauvais œil certaines affaires. Lui, il a dit, non, c'est un journal libre... Par contre, ils mettaient à la disposition du journal, qui devenait un journal d'entreprise, les moyens, l'imprimerie. Et donc, je me suis lancé là-dedans, avec tout seul, et puis avec quelques copains quand même. Et l'éditorial expliquait pourquoi. Voilà, c'est le premier numéro, qui vous voyez, je t'en paye un, mais il n'avait pas de nom. La première des choses qu'on a faites, c'est de demander comment on l'appelait. Et puis le deuxième, vous voyez, le deuxième s'appelle le Flow parce que on avait des journaux qui s'appellent le Ponant, le Jouzan, enfin, on voulait voir quelque chose de vivant qui monte, donc on l'appelait le Flow, qui est le Flow à marée. Donc vous voyez, l'état d'esprit, c'était vraiment de faire circuler le dialogue et l'information. Et ça, par rapport à la question que vous m'avez posée, qu'est-ce qui est un souvenir frappant, enfin, hein, c'est celui-là, parce que autant quand on est directeur, si on ne l'est pas, il y en a un autre, je ne dis pas qu'il fait la même chose, mais enfin, fait mieux, fait plus mal, ça va. Mais un truc comme ça, à l'époque, j'avais que moi pour relancer parce que j'avais eu l'idée.
La Grande Maison, une émission de Martin, Cause et Léouette, à retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour. Toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours. C'est là le sort de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste vite un bec pour nos baisers le corps avec. Et les joies et les bouderies, les fâcheries. Les bons retours, il y a tout ça en raccourci.